Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport, et avec Maxime Dupuis, on va débriefer la belle victoire des Bleus face à l'Australie, 4 buts à 1 pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde. Maxime, c'était plutôt convaincant.
Ouais, alors belle victoire, je suis, on va dire oui, mais surtout large victoire, voilà. Et encore une fois, au vu du début de la soirée, au vu des pépins qui sont tombés sur les Bleus, au vu de la première demi-heure, au moins les 26 premières minutes avant le but, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est une soirée quand même positive. Il n'y a pas que des bonnes choses, mais la note finale est plutôt bonne, on va dire.
On a divisé ce débrief en 3 parties. La première, évidemment, on va revenir sur Olivier Giroud qui a égalé le record de Thierry Henry. Il est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et au-delà d'Olivier Giroud, on va parler de sa relation avec Kylian Mbappé. On a l'impression que les deux hommes sont devenus, en dehors du terrain, les deux meilleurs amis du monde, mais aussi sur le terrain. Et c'est une vraie nouveauté. Donc ce sera la première partie, Maxime. Ensuite, on reviendra peut-être sur le petit point noir, voire le gros point noir de la soirée.
Tout va très vite dans le football, c'en est la preuve. Le gros point noir, on avait peur qu'il soit en défense centrale. Or, tout s'est exceptionnellement bien passé entre Upamecano et Konaté. Et le point noir, il est côté droit avec Pavard, parce que là, on est sur une petite disaster class, on va dire.
Et sur le côté gauche avec Lucas Hernandez,
oui,
aussi,
c'est vrai, ouais.
On en parlera, Maxime. Et on terminera avec le débrief des notes, de nos notes d'Eurosport.fr. On vous les donnera non pas en exclusivité, puisque vous pouvez déjà les voir sur notre site internet, mais voilà, on discutera de la performance de notamment d'Ayo Upamecano, d'Adrien Rabiot, ou même, on pourra faire un petit tour d'horizon. Donc voilà, restez avec nous pour savoir les notes. Des Bleus face à l'Australie, l'émission s'annonce palpitante.
Surtout si vous avez commencé à nous écouter, restez. Sinon, c'est dommage de venir pour écouter juste un sommaire et de se dire j'arrête là, je vais me coucher ou je vais faire autre chose.
Exactement.
Surtout que le meilleur est à venir.
Le meilleur est à venir. Et on vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast.
Ouais.
Plus que jamais, on vous le répète, abonnez-vous pour avoir pendant toute cette Coupe du Monde nos analyses les plus fines, notamment celle de Maxime, puisque moi je ne suis là que pour passer les plats ou pour le mettre en valeur. Maxime, le fait saillant de cette victoire face à l'Australie, c'est évidemment le doublé d'Olivier Giroud, mais aussi son entente avec Kylian Mbappé. Écoute, on a l'impression que les deux hommes, désormais, sont les meilleurs amis du monde.
Ouais, individuellement, on n'a pas appris grand-chose sur Olivier Giroud, qui est une redoutable machine à but. On le savait déjà. Mbappé, qui est aussi une machine à but, il y en a eu un de moins, mais il a marqué de la tête, et aussi cette force pour créer des différences. Le petit bémol, tu le sais, c'est quand il commence à en faire un peu trop. Je trouve qu'il est tellement efficace, ballon, enfin en jouant simple et en jouant une touche de balle, on l'a vu. Voilà, des débordements sont formidables. Il y a des fois le petit crochet de trop, mais encore une fois, bon, s'il marque à tous les matchs à Coupe du Monde, je ferai fi de ça, voilà. Ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'est l'entente des deux. On est 3 jours après le forfait de Karim Benzema. On est un an et demi maintenant après le retour de Karim Benzema en équipe de France. Le duo Mbappé-Benzema, ça marchait bien. Mais quand même, le duo Mbappé-Giroud, ça fonctionne du tonnerre. Parce qu'on a deux joueurs qui, pour le coup, sont vraiment complémentaires. Là où Benzema et Mbappé se distinguent par un talent commun et une force au-delà de la moyenne, on a là deux joueurs qui sont différents mais qui s'emboîtent parfaitement, parce que on a l'impression, Martin, que Mbappé a fini par adouber Olivier Giroud, ce qui n'était pas une évidence.
Et ça s'est passé devant les micros avec ce fameux pivot, ses déclarations sur...
Merci le Paris Saint-Germain, finalement.
Ouais, merci le Paris Saint-Germain, et exactement. Mais là, on a l'impression, effectivement, ça fait quand même un bout de temps qu'ils jouent ensemble. Depuis les débuts d'Mbappé, finalement, il y a eu Giroud. Et c'est simplement une parenthèse d'un an et des brouettes avec Karim Benzema qui a mis Giroud un peu plus dans l'ombre. Mais même avant que Benzema arrive, à la Coupe du Monde 2018, on avait Enfin, l'entente sautait un ouais. peu moins aux yeux.
Non, ils étaient sur la même ligne, mais on ne peut pas dire qu'il y avait une entente formidable.
Voilà. Face. Mais c'est la suite de ce qui s'est passé ces derniers mois avec Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Et là, on a l'impression. Alors, on les a vus énormément à l'entraînement se faire plein de petits câlins sur des célébrations de but. Là, le câlin était très, très gros aussi sur le deuxième but de Giroud. Il a carrément embrassé le coup de Kylian Mbappé. Et on a l'impression qu'enfin, ces deux-là. Bah, tire dans le même sens et tire l'équipe de tracte même l'équipe de France. Tu l'as dit, sur leur qualité individuelle, on n'a aucun doute depuis déjà bien longtemps. Mais si en plus ils unissent encore mieux leurs forces, là on va avoir un nouveau monstre en attaque. Alors évidemment, c'est pas Karim Benzema, mais face à l'Australie, on a oublié Karim Benzema. Est-ce à dire qu'on l'oubliera jusqu'à la fin du mondial ? On n'en est pas là du tout encore. Est-ce à dire qu'il vaut mieux avoir Giroud plutôt qu'un ballon d'or en pointe de l'équipe de France ? Je n'ai pas dit ça. Mais ce qui est certain, c'est que je pense pour justement succéder au ballon d'or, on pouvait avoir difficilement mieux qu'Olivier Giroud.
Et puis, tu ne l'as pas dit, mais rien n'est impossible. L'équipe de France a gagné une Coupe du Monde sans Karim Benzema, qui est le meilleur attaquant français de sa génération. Voilà, c'est ainsi. Et il se trouve qu'aujourd'hui... Giroud sert parfaitement les ambitions de Mbappé aussi, il faut le dire. Le pivot gang, c'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il veut être au centre du projet, il veut être lui-même. Et quoi de mieux qu'une rampe de lancement pour Giroud ? Parce que Giroud, il marque, mais c'est pas un joueur égoïste, et c'est un joueur qui va savoir trouver Mbappé quand il voudra. Il y a cette remise ce soir lumineuse de Giroud qui symbolise ça, sur laquelle après Mbappé, je crois, frappe de l'extérieur.
Il est un tout petit peu court, ouais. Et il se fait reprendre un peu par le défenseur aussi.
Et en fait, c'est ça, parce que maintenant, en plus, dans sa position de jeu en 2018, t'as aussi ça, il joue à droite, c'est pas exactement pareil. Là, il part à gauche, et en fait, c'est vraiment le ce qu'on attend des deux, c'est quasiment le 1-2, c'est-à-dire c'est Mbappé qui va chercher Giroud, qui va lui remettre pour créer des occasions pour Mbappé. Donc Mbappé trouve complètement son compte dans cette association.
Et aussi, très important, on a deux joueurs qui sont au sommet de leur forme en club. On a deux joueurs qui arrivent en Coupe du Monde en pleine confiance, que ce soit Giroud avec l'AC Milan en Ligue des Champions en Ligue 1, ou Kylian Mbappé qui depuis un an est quasiment intouchable au Paris Saint-Germain. Ça aussi, ça change pas mal de choses parce que les deux sont ancrés dans un statut qu'aujourd'hui, rien ne remet en cause. C'est-à-dire aussi bien leur aventure en club, et la blessure de Benzema a complètement conforté Giroud qui est l'indiscutable numéro 1 en pointe. Je veux dire, Colomoigny et Marcus Thuram, ils ont sans doute, enfin, c'est pas sans doute, ils ont beaucoup de talent. Mais bon, vu la stature d'Olivier Giroud en club et surtout en sélection. Voilà, donc on a une situation hyper claire, hyper nette. Et très franchement, on ne pouvait pas mieux aborder ce tournoi de ce point de vue, du point de vue de l'attaque de ces deux-là, quoi.
Ouais, tout à fait. Et puis, faut le redire. Ah, Giroud, il a pas mis un but en 2018. Bon, bah, bim, en un match, c'est réglé. Il en a mis deux. Au moins là-dessus,
il a triplé son nombre de buts en Coupe du Monde.
Exactement. Et puis voilà, et il apporte encore une fois une palette différente. On l'a suffisamment répété, mais voilà, et c'est un joueur qui. C'est un peu le paradoxe de ce buteur qui est glouton au niveau des buts, mais qui est absolument pas égoïste. On dit d'un avant-centre qu'il doit être égoïste, sauf que lui, il ne l'est pas. Bah, quand il faut marquer, il marque, il essaye d'être là, mais il n'a pas de problème à jouer avec les autres. Et justement, c'est pour ça que ça a marché du tonnerre en 2016 avec Griezmann, parce que justement, il y avait aussi cette association qui était d'un autre type, mais qui marchait à deux, et cette association avec Mbappé qui peut permettre aux Bleus d'aller très loin. En tout cas, offensivement, si on devait débriefer le global, c'est pas là où je me ferais beaucoup d'inquiétude. Au contraire, d'autres endroits sur le terrain.
Il m'a tout appris. Hein. Ouais. T'es un peu mon Léon Zitrone, Maxime. Ouais. Là, le mec m'a tout appris. Belle transition. Et on va parler de la défense des Bleus qui, effectivement, pose problème. Non pas la charnière. On avait beaucoup de doutes sur Upamecano et Konaté. Ils les ont en partie levés. Voilà, ça demandera confirmation face au Danemark, puisque quand même, les Australiens, au niveau des ambitions offensives, ce n'était pas tout à fait ça. Mais malgré ça, sur les côtés, on a en revanche de plus en plus d'inquiétudes. Alors, pour des raisons différentes, à gauche, parce que Lucas Hernandez, le titulaire, est sans doute out jusqu'à la fin de la compétition, ça demande confirmation. Alors oui, Théo a été très très bon et on a pour le coup assez peu de doutes sur lui, vu son historique en équipe de France et sa belle prestation. Et à droite, ça fait maintenant des années que ça dure, toujours pas de solution. Benjamin Pavard, qui avait été annoncé comme un joueur d'axe aujourd'hui dans la défense à 4 et le latéral droit, il a encore une fois montré ses limites au cours d'une première période cauchemardesque, d'un but dont il est responsable, on va dire, à 80%.
Ah oui.
Maxime, est-ce que la France peut de nouveau être championne du monde avec un couloir droit de sa défense qui est aussi fragile?
Alors, je dirais qu'en 2018, il n'était pas non plus en béton. On l'oublie pas, je ne sais pas, mais souvenez-vous de la demi-finale face à la Belgique avec Hazard qui avait fait vivre en enfer à Pavard. Mais...
Ou même face à l'Argentine avec Di Maria.
Voilà. Ouais. C'était compliqué.
Ou même avec Perisic face à la Croatie, ça a été compliqué.
C'est vrai, ce qui m'embête, alors évidemment, on analyse sur un moment clé, mais n'empêche que malheureusement, c'est aussi là-dessus que ça se joue, c'est l'équipe nationale, c'est la Coupe du Monde. Alors déjà, la blessure de Lucas a fait deux malheureux. Évidemment, lui, le malheureux, parce qu'évidemment, le pauvre, a priori, c'est grave. C'est ce que dit Didier Deschamps avant les examens. Donc, je pense qu'il a quand même deux, trois indices. S'il ne se blesse pas, peut-être qu'il contrôle le ballon. Peut-être qu'il ne se passe rien. Mais le ballon, là, il passe, il se blesse. Et là, on a un Pavard qui est complètement en fraise parce qu'il est un peu en retard en revenant vers son but. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il ne suit pas Goodwin. C'est-à-dire qu'au lieu de le marquer, parce qu'il le voit partir dans son dos, il repique dans l'axe et il le laisse complètement seul. Et puis Goodwin réussit sa belle reprise. Voilà, donc c'est embêtant parce qu'on avait déjà des doutes, comme tu l'as dit, en entrant dans cette soirée.
De gros doutes
sur le poste d'arrière droit, qui concerne aussi Jules Koundé, parce que peut-être que le prochain match, ce sera Jules Koundé.
Mais c'est kiff-kiff bourrico,
comme
on dit.
Dans les années 70.
Années.
Mais évidemment, parce qu'il y a un vrai problème de latéraux sur le côté droit. Et le paradoxe, c'est, tu l'as dit, Lucas Hernandez s'est blessé, Théo Hernandez est entré. Et normalement, Théo Hernandez, c'était le fameux piston. Or, là, je trouve qu'on est un peu, non pas injuste avec ça, mais il joue à 4 au milieu AC. Le vrai problème, je pense, qu'il y a des champs avec lui, c'est son côté hyper offensif. Mais moi, ce que j'ai vu ce soir me rassure globalement, en espérant évidemment qu'il sera au niveau défensif, mais au moins, je ne suis pas inquiet pour ça, mais je crois savoir, Martin, que tu n'es pas le seul à être inquiet, c'est l'éventuelle doublure.
Moi, je reproche à Didier Deschamps de n'avoir amené que deux gauchers parmi ses 9 défenseurs, et de n'amener que finalement que Théo Hernandez, qui joue régulièrement latéral gauche, même si Lucas il a joué suffisamment en équipe de France et même au Bayern Munich. Mais malgré tout, aujourd'hui, on connaissait l'historique des blessures de Lucas Hernandez, qui n'a pas terminé l'Euro 2016, on le rappelle, qui revient d'une lésion musculaire, qui voilà, a un corps très fragile. Il s'est blessé et aujourd'hui, il n'y a plus de doublure à Théo Hernandez, si ce n'est alors l'hypothétique Adrien Rabiot ou je ne sais qui d'autre. Voilà, ça s'apparente à du bricolage, alors que quasiment tous les postes sont, grâce à l'élargissement de la liste à 25 noms, triplés. À droite, Koundé, Pavard, mais même Saliba peut jouer dans l'axe, j'en parle pas. On a moult, tout le monde peut jouer, sauf Théo Hernandez. Et là, on se retrouve avec le seul Théo Hernandez. Au milieu, on a plein de joueurs. En attaque, en pointe, on a aussi 3 joueurs potentiellement, voire 4 avec Mbappé. Bref, et là, on manque de gaucher. On l'avait vu venir dans cette liste qui était quand même assez déséquilibrée au niveau de l'équilibre gaucher-droitier au niveau des défenseurs, puisqu'il n'y a que 2 gauchers, donc 7 droitiers. Qu'est-ce que ça coûtait de prendre un 26e et d'amener un Digne ou un Mendy pour se donner une assurance vie jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde? Aujourd'hui, ce côté gauche, alors déjà que le côté droit est très fragile avec Koundé et Pavard, mais le côté gauche est sur un fil, parce que au moindre choc ou suspension de Théo Hernandez, on va se retrouver avec un problème qui pourrait être insoluble et qui pourrait causer la chute des Bleus, comme ce fut le cas à l'Euro 2021, quand Digne et Hernandez se sont blessés. On s'est retrouvé avec Rabiot, résultat, sortie de route.
Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de nombre. Pourquoi ? Parce que on va remonter très loin. En 98, il n'était que 22. Et il y avait une doublure qui pouvait jouer sur les deux côtés qui s'appelait Vincent Candela. Il était droitier, mais il pouvait jouer à gauche. Ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être de la polyvalence. Et on avait aussi Emmanuel Petit qui pouvait redescendre arrière-gauche. Et souvenez-vous qu'à l'époque, Jacquet avait laissé Pierre Lec de côté qui aussi aurait pu jouer sur ce poste-là.
Mais là, on a 26 joueurs, Maxime, potentiel.
Voilà, je pense que le vrai problème, c'est la polyvalence parce que je souscris à une chose que tu dis. Je suis complètement d'accord, le côté liste étrange derrière. Parce que déjà, il nous a fallu du temps avant de comprendre qui était prévu pour quel poste. Et souviens-toi qu'après la conf de la liste, on n'est pas certain de ce qu'il veut faire à gauche.
Tout à fait.
Il faut que Didier Deschamps dise « Lucas et Théo sont mes deux arrières-gauches ». Là où j'ai du mal à blâmer Deschamps, c'est qu'il a pris deux arrières-gauches. Et là, c'est pas de peau. Regardez toutes les sélections du monde, je ne suis pas sûr qu'il y ait 3 arrières-gauches. Là, il n'a pas de peau parce qu'il se retrouve avec un arrière-gauche qui se pète après 9 minutes, donc il n'en a plus qu'un. Et le problème, c'est que derrière, en effet, le problème, c'est qu'il n'y a pas ce joueur polyvalent qui pourrait, enfin qu'on ne voit pas du moins arriver. Parce qu'honnêtement, j'imagine pas une seconde Rabiot passer.
Bah non, on a trop besoin de lui au milieu.
Tu déshabilles Ball pour habiller Jacques.
Non, mais tu vas mettre qui, Guendouzi, Veretout?
Non, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas croiser les doigts très fort pour que il ne se blesse pas. Ou peut-être mettre un arrière-gauche. Il y a des défenses qui ont gagné des Coupes du Monde, peut-être pas, mais qui sont allées très loin avec 4 centraux. Il faut espérer ça. Mais en effet, la situation n'est pas favorable. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire qu'il n'a pas de peau. Quand même,
oui, parce que... mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais disons qu'il se crée un danger potentiel qu'il aurait pu éviter facilement en appelant un 26e joueur en couvrant ce poste-là. Je rappelle que si la FIFA avait donné la possibilité d'appeler 26 joueurs, ce n'était pas pour rien. C'est parce que cette Coupe du Monde était particulière, parce qu'on sait qu'on est dans un moment où il n'y a pas eu de préparation, où quand même les joueurs ont tendance à péter un peu plus que la moyenne. On le voit depuis le début de cette Coupe du Monde. Que Lucas Hernandez, personne ne tombe de l'arbre finalement, parce qu'on sait que c'est un joueur très fragile, Lucas Hernandez. Et lui, plus qu'un autre, était quand même soumis à un vrai risque de blessure. Après, voilà, tu sais pas, il peut aussi passer à travers les gouttes. Et que là, finalement, tu te retrouves face à un danger potentiel, mais que tu aurais pu éviter assez facilement avec un Mendy ou avec un Digne.
Alors oui, mais après tu pars à... En fait, je pense que le déséquilibre, il vient pas complètement de ça. Le déséquilibre, on peut discuter de mettre Lucas à gauche, Théo à gauche, ok. Mais finalement, le déséquilibre, quand tu vois la défense, tous les postes sont doublés, sauf un qui est triplé, c'est Varane. Et c'est un effet papillon, c'est-à-dire que tu emmenais un joueur... Bah si, parce que t'as emmené un joueur sur lequel t'as besoin, mais finalement qui est pas apte à jouer le premier match.
Oui, mais plein de postes sont triplés au final, parce que t'as des polyvalences. T'as des polyvalences.
Oui, mais non, mais...
Bah si, celle de... Bah, par exemple, les postes de milieu centraux, bah vu que t'en as que deux...
Ah et oui,
que,
mais milieu c'est différent.
Défenseur droit, t'as William Saliba, en pointe, t'as Thuram, Mbappé,
oui,
voilà.
Parce qu'on décide
à gauche,
de faire
c'est
ça.
Hyper particulier,
mais
il te manque quelqu'un.
Oui, mais tu prends toutes les sélections, t'as pas trois arrières latéraux. Simplement, je pense qu'il manque un profil polyvalent, en effet. On va se dire qui on va mettre. Un Kimpembe, par exemple. Alors, Kimpembe, c'est pas la folie arrière-gauche, mais c'était imaginable. Voilà, il manque ça. Et il a... Je vais pas le défendre, encore une fois, mais je pense qu'il subit aussi ça.
Oui, après, il a pas de bol. Ça,
parce
c'est
que
certain.
Là, à chaque fois que tu as des gauchers, en gros, il se pète et tu te retrouves. Et là, 9 minutes, c'est vrai que c'est le cauchemar absolu. En plus, vraiment, tu prends le but sur la blessure. Il y a tout qui va de travers. Et en effet, maintenant, il faut mettre... Théo Hernandez dans du coton. Après, le gamin, mais il a
ça pourrait être ton fils, hein.
Ça pourrait, ça pourrait être ton fils. Il est quand même assez solide, on va espérer que ça tienne bien, mais comme tu dis, au moindre pépin, à la moindre suspension aussi,
mais oui, suspension, bah oui.
On se retrouve dans la panade.
Allez, on va passer à la dernière partie de cette émission et aux notes d'Eurosport.fr qu'on va débriefer avec vous. Je vais vous donner les notes tout simplement de l'équipe de France, avec un 5 pour Lloris, un 4 pour Benjamin Pavard, Konaté a eu un 6, Upamecano un 7, Théo Hernandez un 7, Adrien Rabiot un 8, Tchouaméni un 5, Griezmann un 6, Dembélé un 5,5, Mbappé un 7 et Giroud un 8. Maxime, sur quelle note tu as envie de revenir?
Deux joueurs, mais je vais commencer par, parce qu'il faut lui rendre un hommage. Un vibrant hommage, parce que hier, ici même...
On l'a un peu découpé.
mais en même temps... Non, mais là, on s'est basé sur des faits, c'est-à-dire qu'il avait été incapable d'être au niveau psychologique, mental de ses points de sélection. C'est Dayot Upamecano. Et alors là, moi, j'aimerais être une petite souris pour comprendre ce qui a changé, le pourquoi il a été modifié. Alors, je sais qu'on va nous dire, oui, on avait toujours eu confiance en lui, oui, mais non, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que là, le match qu'il fait, c'est un match de patron derrière. Huitième sélection, et le travail défensif, c'est pas le truc où il y a eu le plus de choses à faire, mais j'ai beaucoup aimé, moi, sa volonté et ses ballons. Voilà,
Il a remplacé Pogba quasiment dans la relance en trouant ses attaquants.
Moi, je regrette
dans le jeu long, notamment,
que Varane manque d'ambition dans la relance. C'est propre et ça manque d'ambition. Alors lui, en revanche, il n'a pas hésité. Et franchement, bravo, parce que là, je pense que l'équipe de France, on va passer à la conclusion, il jouera le prochain match face au Danemark. Si Varane est là, ce sera Varane ou pas Mécano. Il n'y a pas à chercher ailleurs.
On a découvert un nouveau ou pas Mécano, j'ai envie de dire. Et il y a peut-être un défenseur qui est né ce soir, peut-être une charnière qui est née, on ne sait jamais, parce qu'on va suivre avec attention le bulletin de santé de Raphaël Varane. Mais en tout cas, il y a peut-être eu la naissance de quelque chose devant nos yeux. C'est assez émouvant. Parce que non, mais parce qu'Upamecano, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait franchement à ce qu'il se fracasse. Parce que dans des matchs de moindre importance et de moindre ampleur, il avait eu les jambes qui tremblent. Et là, premier match de Coupe du Monde, Varane n'est pas là, plein d'absents. C'est à lui de démarrer alors que même sa place dans la liste était à un moment en balance. Et franchement, il nous a étonnés. Alors là, pour le coup, chapeau Deschamps d'avoir maintenu sa confiance en Upamecano quand il devait être un des seuls, avec son staff peut-être, à croire en lui. Mais croire en lui, c'est une chose. Le lancer, c'en est une autre. Il fallait avoir une sacrée conviction quand même pour lancer Upamecano. Et oui, tu l'as dit, c'est un sans faute. Et plus qu'effectivement son travail défensif, même si à chaque fois, avec son corps, dans les duels, il a été très bon. Mais alors dans les relances, la passe pour Griezmann qui amène l'action d'Mbappé en fin de première période, c'est lui. Et le nombre de fois où il trouve dans les pieds ses attaquants ou dans la profondeur, je pense soit Théo Hernandez, soit Griezmann, soit Dembélé. Franchement, un vrai match de patron, c'est un match à un taulier de 50 sélections.
Et c'est important parce que le milieu de terrain n'a pas le potentiel créatif qu'il avait avec Pogba. Donc il faut qu'il y ait des gens qui compensent. Et ça doit aussi partir de l'arrière. Les actions ne se construisent pas à partir du milieu de terrain seulement. Et casser des lignes comme ça et aller chercher les joueurs plus en profondeur, c'est plutôt pas mal.
Pavard, on en a parlé dans le second sujet, mais c'est vrai que c'est le gros point noir. Il a été quand même débordé. Et il me semble que 4, c'est une note qui reflète sa prestation d'ensemble, même si ça a été mieux.
Je crois qu'il a été généreuse.
Non, pas généreuse, mais c'est moi qui l'aimais. Donc de toute façon,
mais t'as un grand cœur.
Non, mais je suis pas là ni pour être généreux ni pour être dur. Je suis là pour être juste.
On pourrait terminer là-dessus.
Voilà. Alors la note, moyenne note sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la note d'Aurélien Tchouaméni, qui est une note de 5, parce que personnellement, je l'ai trouvé assez neutre. Et quand on parle de Upamecano qui a grandi dans ce match, je trouve que lui a un peu rapetissé par rapport à ce qu'il nous avait montré jusqu'ici. On s'était dit que la Coupe du Monde, ça allait être la sienne, en exagérant à peine, mais qu'il allait prendre les responsabilités en l'absence de Pogba et Kanté. Et finalement, ça s'est déporté sur Adrien Rabiot. Ça a été spectaculaire, Rabiot. Je pense que Tchouaméni a eu des consignes de Didier Deschamps parce que le système et le casting de ce 11 proposait quand même une option ultra offensive. Et je pense que Tchouaméni, a été bridé. Je ne vois pas d'autre explication. Ou alors, il est en dedans, mais je pense qu'il a été bridé.
Alors, je valide, mais il y a des choses que j'ai vues en première période qui m'ont un peu inquiété au niveau des transmissions de balles, des fois contre temps, une forme de timidité, paradoxalement.
Oui, c'est ça. Alors qu'on s'attendait à tout, sauf à ça.
Oui, sauf qu'il n'avait pas eu. Alors, encore une fois, il l'expliquera sans doute mieux que nous, mais il y a des moments, vous ne savez pas, tout va très bien, et puis d'un seul coup, vous vous dites, ah ouais, là, c'est la Coupe du Monde quand même. Peut-être que Dayot Upamecano, à l'inverse, c'est ce qu'il l'a transcendé, qu'il l'a mis dans le bon rythme. Alors qu'en effet, Tchouaméni, la première période, alors il est aussi au diapason des autres sur la petite première demi-heure. Moi, j'étais un peu inquiet parce qu'encore une fois, les batailles, elles se gagnent aussi au milieu de terrain. Et si celui qui est censé incarner la relève et le porter fier les couleurs de l'équipe de France, notamment au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni n'est pas au niveau, c'est difficile. Ça a été un peu mieux par la suite, un peu comme l'équipe de France. Et Didier Deschamps l'a dit aussi, il dit que les Australiens ont perdu beaucoup d'énergie aussi en première période. Sans doute qu'ils ont baissé de pied. Au moment, ils ont eu le mérite, les Français, notamment Tchouaméni, de se reprendre.
On va terminer, là ça va être un one-man show de Maxime Dupuis.
Ah non, mais j'ai une dernière note dont je voudrais parler.
Ah, celle de Kylian Mbappé?
Non.
Ah tiens donc, parce que moi je voulais te faire réagir sur Kylian Mbappé.
Ousmane Dembélé.
Oui, alors Ousmane Dembélé, 5,5. Heureusement que sa passe décisive quand même sauve le tout, parce que très franchement, sa première période, il a fait deux fois la différence, il est passé deux fois, donc c'est à mettre à son crédit. Moi, je le trouve un peu... comment dire, un peu mou. Ouais. Je trouve qu'il manque de conviction dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il fait des différences, mais je le trouve pas assez engagé dans ce qu'il veut proposer. Et du coup, ça me donne une impression d'ensemble qui est quand même très moyenne. Alors, par contre, son ballon, oui, ça passe décisif, est magnifique pour la tête de Kylian Mbappé, mais il manque ce surplus d'énergie.
Ouais, pareil, exactement. La première période, je le trouve très mou. Peu de il va provoquer, il va y aller, mais il manque quelque chose. On a l'impression d'un joueur qui était ou fatigué ou pas au niveau au début. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Et puis à un moment, il a fait une grosse différence en première mi-temps. Et là, on se dit, ah, on l'a retrouvé, voilà. C'est un match pour
mais
moi.
Mais c'est intermittent aussi. Hein.
C'est intermittent et je suis pas sûr que ça suffise, voilà.
Non, mais
parce
ça...
que déjà que le système ainsi, voilà. À 4 offensifs, il est en balance parce qu'on sait très bien que Didier Deschamps est pas trop un joueur de PlayStation.
Disons que ça fonctionne contre l'Australie, voilà. Ça fonctionnera moins contre le Danemark.
Exactement, voilà. Alors les Danois, l'avantage, c'est peut-être qu'ils vont besoin, vu leur match nul, ils auront besoin peut-être de sortir un peu plus et encore parce que finalement, un match nul contre les Bleus et 3 points derrière, ça peut passer. Mais je suis un peu déçu de sa prestation.
Il n'a pas totalement saisi sa chance.
Il n'a pas totalement saisi sa chance.
On finit avec
Kylian Mbappé. Tu l'as mis combien ?
Je lui ai mis 7.
Parfait. Mais non, mais bah, ouais. je le répète, je ne vais pas changer mon logiciel là-dessus.
Ah non, ça non.
La première période, il y a des moments où on a envie de lui dire « Kylian, lâche le ballon. Donne le ballon plus vite, tu vas y gagner. » Et les fois où il le fait... C'est lumineux, voilà, tout simplement. Il y a plein de fois où il y a un petit crochet de trop, voilà, tout simplement.
Après, Maxime, objectivement, oui. Il est décisif sur le deuxième but des Bleus avec
évidemment.
Cette talonnade pour Rabiot.
Et il marque de la tête,
exceptionnel.
Donc tu peux rien dire.
Il marque de la tête et fait une super passe décisive pour Giroud. Donc,
mais évidemment.
Il y a du gâchis, mais encore une fois, je pense que c'est son jeu et je pense qu'on... Oui. Tu vois, Mbappé, on le bride. Mbappé, faut pas le brider.
Oui, mais je lui demanderai toujours plus. C'est-à-dire que Mbappé, moi, je veux qu'il fasse toujours le bon choix. Je sais que c'est pas possible, mais surtout en tout cas, je veux pas qu'il fasse le mauvais choix à cause d'un ballon, d'un dribble en trop, voilà. Simplement, le fameux crochet en trop dans la surface avec le débordement. Voilà, il y a plein de fois, il revient, alors qu'on a envie qu'il donne le ballon, tout simplement. Moi, je suis comme ça, moi, je suis un joueur dans le collectif. Je donne le ballon une touche de balle. Non, mais c'est vrai. Bah voilà, bah, je pense que les gens pensent comme moi. Je sais que le peuple pense comme moi.
Maxime, porte-voix du peuple français. C'était l'émission
c'est
du peuple.
Voilà,
on a eu le ballon d'or du peuple. Maintenant, on a le FC Stream Team du peuple grâce
non
à
mais,
Maxime Dupuis.
Et je le répète, alors, il a raté son Euro 2021 à
c'est
cause
reparti.
De ça. Donc, j'ai pas envie qu'il refasse une deuxième
fois.
Il a
déjà marqué plus de buts qu'à l'Euro.
Oui, bah, oui, d'accord. Mais l'Euro, il n'y a pas l'Australie non plus, si tu veux.
Ouais, d'accord, ouais, mais il y a la Hongrie, quoi. Donc c'est
mais
pas...
En effet, ouais, bah, ça fait un partout, ça n'était pas bien. Mais bon, bref. En tout cas, je pense que le jour où il, dans ses choix, il gommera parfois le moment où il garde le ballon un peu trop, où il fait le crochet de trop. Là, il sera intouchable. Déjà qu'il n'en est pas loin, là, ce sera formidable.
De toute façon, je pense qu'à part.
Et qu'il laisse des corners aussi.
À part un sextuplé en finale de la Coupe du Monde, et encore, il aura peut-être quelque chose à redire.
Ouais, Maxime, c'est l'exigence.
Très exigeant, ouais, bien sûr. Exigeant avec Kylian Mbappé. On termine cette émission là-dessus. De toute façon, on se retrouve demain pour une nouvelle émission ouais. du FC Stream Team. On reparlera évidemment de cette victoire, de cette belle victoire de l'équipe de France pour son entrée à la Coupe du Monde. Bon, on se donne rendez-vous demain, Maxime. Petite nuit. Hein.
Petite nuit, ouais.
Petite nuit, mais tu te nourris bien parce que tu sais que la compétition est longue. Je ne veux pas de blessure à la Lucas Hernandez
ah ouais.
parce qu'on n'a pas de doublure. Hein.
Parce
que si la doublure, c'est Cyril Morin, Glenn Cellier ou Julien Pereira, là, on est dans une mer de noir. Voilà, je dis les mots. Donc, Maxime, exigence au quotidien, discipline. Alors, j'ai pas de doute sur le sommeil, j'ai plus de doute sur l'alimentation. Donc, Maxime, je veux une Coupe du Monde immaculée. Oui, je ne veux pas de sortie, rien de tout ça, ok ?
Oh ouais, non, ça risque pas, je trouve.
Non, ça risque pas, c'est pépère, pépère du puits. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission du FC Stream Team. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.